Bien, écoutez, vous avez dû remarquer la semaine dernière que j'ai pas fini. Alors, je vous propose de commencer par le premier sujet de la paracha de cette semaine, qui est Béa Otecha. La semaine dernière, c'était Nassau. Et si nous reste du temps, je reviendrai un peu sur un des sujets de la paracha de Nassau. C'est pas une raison parce que je suis pas venu que ça me manque. Et s'il nous reste encore du temps, je reviendrai sur un autre sujet de la paracha de Béa-Oter. Alors, je vais en tout cas procéder, comment dire, sortir. Quelle heure de salut ? De là où nous étions arrivés dans l'analyse de la paracha de Bemidbar, en tout cas du thème principal, vous vous en souvenez, il s'agissait du dénombrement qui a eu lieu après Akamat HaMishkan, après que le tabernacle ait été construit. Ça a pris un certain nombre de semaines, mais a été mis sur pied par Moïse. Nous nous trouvons, le tabernacle a été dressé, je peux comment dire, au Kham, le premier Nissan de la deuxième année de la sortie d'Égypte. Vous vous rappelez ? Et le premier Iyar, il y a eu un dénombrement, et nous avons étudié ce que Rashi et d'autres commentateurs ont dit, de la différence entre le dénombrement qui avait eu quelques mois avant, après le Yom Kippour de la première année, et qui venait en conséquence de la faute du Vaudor. Et il s'agissait à ce moment-là de dénombrer Israël pour savoir s'il y avait suffisamment de personnes pouvant ensemble constituer l'assemblée ou le clan d'Israël après la mise à l'épreuve qui a résulté de la faute du Vaudor. Et ceci se passe à partir du Yom Kippour de la première année. Alors que le dénombrement que nous avons au début de la deuxième année de la sortie d'Égypte, à partir du premier Iyar, celui qui faisait l'objet d'une bonne partie de la paracha de Bemidbar, c'est afin de savoir si Israël est déjà apte à ce que la Shekhina repose sur lui. En fait, le commentaire de Rashi que nous avons étudié tient compte du fait que déjà le Mishkan a été mis sur pied. Par conséquent, d'une certaine manière, Dieu a jugé que Israël était apte à ce que la Shekhina repose sur lui. Si j'entends des mots que je ne traduis pas, arrêtez-moi. La Shekhina, c'est-à-dire que pas seulement Israël et Dieu sont reliés par une alliance qui fait que Israël reconnaît Dieu comme son Dieu et que Dieu reconnaît Israël comme son peuple. Ceci est a priori acquis dès le commencement de l'histoire des patriarches, mais que cela soit pas seulement vrai mais réel, qu'il y ait une présence réelle de ce lien d'alliance entre Israël et Dieu, Dieu et Israël. Et c'est pourquoi Rachid dit, c'est pour mettre en évidence le prix que Dieu attache à Israël, puisque déjà le jugement est fait, mais pour le dévoiler. Pour dévoiler l'importance qu'Israël a vis-à-vis de Dieu, à ses yeux, pour dire l'amour que Dieu a pour Israël, chaque fois qu'il a une occasion de le faire, il les dénombre. Un peu comme certains midrashim l'indiquent, le cri à cœur se base beaucoup sur ces midrashim, un peu lorsque quelqu'un enfin a découvert une pierre précieuse dans le sable, et plusieurs pierres précieuses, une pierre précieuse c'est 600 000 pierres précieuses, alors il est heureux, content de son trésor, et à chaque occasion il le montre, il le compte, il est content. Et la différence entre ces deux dénombrements, c'est que le premier dénombrement était un dénombrement global du nombre des enfants d'Israël, alors que le deuxième dénombrement, celui de Bemidbar, était les Mispar Shemot. Chacun a été nommé. Il y a une marala différente, un niveau de valeur différent, où chaque personne est mise en évidence dans son identité propre, dans son identité individuelle. Mais vous rappelez que toute la controverse des commentateurs au sujet de ces deux dénombrements, parce que c'est exactement le même chiffre, le même nombre, vous rappelez de cela, tournait sur le fait de savoir si dans le premier dénombrement la tribu de Lévi avait été aussi décomptée avec les autres tribus, alors que dans le deuxième dénombrement, il est évident que la tribu de Lévi a été mise à part et dénombrée à part. Vous rappelez de cela, je ne reviens pas dans les détails. Alors, nous avons dans la paracha de Be'alotecha, paracha de cette semaine, un verset très important que nous avons étudié, je ne me souviens plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant, mais que je vais quand même reprendre assez rapidement en préface de préface. Ça rappellera cette étude pour ceux qui l'ont suivi, et puis pour les autres, ça leur indiquera que c'est une étude importante, mais je vais la rappeler très brièvement pour poser le problème de la relation entre la tribu de Lévi qui est décomptée à part des autres tribus et d'autre part les autres tribus qui sont décomptées à part de la tribu de Lévi. Le problème du lien entre la tribu de Lévi et les autres tribus d'Israël, c'est un sujet très important que j'avais signalé dans certains cours de l'année dernière d'ailleurs, peut-être un jour on le reprendra systématiquement, mais ça va nous permettre de comprendre pourquoi notre paracha de Be'alotecha, après le récit qui se trouve dans la fin de la paracha de Nassau, de l'inauguration du Mishkan par les princes des 12 tribus, va commencer par la prérogative de la tribu de Lévi, au niveau le plus haut, à Aaron, le grand prêtre, qui est lui chargé d'allumer le candélabre dans le Mikdash, la Menorah. Et nous essaierons de mieux comprendre ce que dit Rashi à propos des versets de la Menorah. Ce sera ma première étude. Alors, je reprends d'abord le chapitre 8, verset 19, dans Be'alotecha. Peut-être que j'en profiterai d'ailleurs pour indiquer un peu, ça éclairera d'autant ceux qui suivent le séminaire des mardis soirs sur messianisme et sionisme, et ça nous fera une petite préface sur une des interventions que nous aurons à la soirée de Sifoum, qui est pas ce mardi mais le mardi d'après. Je vous rappelle que mardi prochain, aujourd'hui, nous aurons une communication importante, intéressante en tout cas, par la personnalité de Kida Fora sur la position des partis religieux anti-sionistes concernant le problème du sionisme et du messianisme. Et il s'agit de quelqu'un qui a vécu ces positions-là par lui-même, puisqu'il a vécu à Meir Shealim, et il vous dira ce qu'il en pense. Et mardi d'après, donc le 18, nous aurons le Sikoum. Vous aurez peut-être l'occasion de revenir sur cette question du lien entre la tribu de Lévi et les autres tribus, mais peut-être que nous aurons étudié ça durant une année sur les textes qui en parlent, sans problème qui en vaut la peine. Et donc prenons donc ce verset 19 du chapitre 8 que je vais vous rappeler très rapidement. C'est un des versets où la Torah rappelle ce que nous savons déjà. Étant la conséquence de la faute du vaudeur, la tribu de Lévi n'ayant pas participé à la faute du vaudeur, son statut sera différent des autres tribus sur un premier thème important pour lui-même. Le premier projet à la sortie d'Égypte, c'est que l'ensemble du peuple d'Israël soit voué à la sainteté. Pour ainsi dire, comme si l'ensemble du peuple d'Israël était destiné a priori à être les prêtres de l'ensemble des nations. Non, mais faites quoi, mais goy kadosh. Je reviens toujours sur ce verset. Il faut bien comprendre le premier projet de la Torah. C'est-à-dire, la comparaison pourrait être définie ainsi. Les nations seraient comme sont maintenant les tribus d'Israël, et Israël tout entier serait comme est maintenant, enfin dans les temps bibliques, la tribu de Lévi. Ce plan, ce projet n'a pas pu se réaliser pour deux raisons corollaires. Une raison intérieure, une raison extérieure. La raison intérieure, et la faute du vaudeur l'a mis en évidence, c'est qu'il n'y a pas encore capacité suffisante pour Israël d'être à ce niveau-là, bien qu'il ait déjà de façon irréversible appelé à ce projet-là. Et comme je l'explique souvent, d'ailleurs ce n'est pas moi, comme je le cite souvent, pour que Jacob soit Israël, il faut qu'il devienne Israël. Mais seul Jacob peut devenir Israël. Jacob ne naît pas Israël, il est Jacob. Et il faut obtenir cette qualification d'Israël. Et cela engage à tout ce que cela engage. Mais à partir du moment où Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, apparaît dans l'histoire, on sait que seul Jacob peut devenir Israël. Les deux choses, non seulement ne sont pas contradictoires, mais sont corollaires l'une de l'autre. Il faut avoir été Jacob pour devenir Israël, mais il ne suffit pas d'être Jacob pour être déjà Israël. On pourrait les dire de mille manières, mais je crois que vous l'avez compris. Or, c'est assez parallèle. Tout Israël est déjà irréversiblement dans le projet d'être Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, mais il n'est pas encore, c'est un projet différé. Ce qui est mis en évidence, c'est que c'est la faute du vaudeur qui le met en évidence. Il n'est pas encore capable d'être à l'origine de son histoire concrètement au niveau de la réalité, bien que dans la vérité du projet ce soit déjà le cas, le peuple détraite des autres nations, il le sera, si nous avions le temps pour reprendre ses analyses, il va l'être à travers l'histoire, qu'il le veuille ou pas, que les nations ne le veuillent pas, mais à un niveau extrêmement occulté, caché, défiguré, barakifine, comme on dit en français, barakifine, indirectement, très indirectement, mais de manière défigurée. Ça se fait quand même, mais au niveau de défigure que l'exil peut être vis-à-vis de la Géoula. Vous voyez à peu près les parallèles que je voulais indiquer, ça se fait quand même. Si on relit l'histoire des sociétés humaines, chaque fois que le peuple d'Israël sort des ghettos, et c'est un, je ne sais pas comment dire ça en français, c'est un soucoumant général de la conscience universelle, et il n'y a qu'à suivre cette histoire dans la civilisation contemporaine, à partir de l'émancipation, les juifs sortis des ghettos ont bouleversé toutes les catégories de la culture mondiale, finalement, à partir de l'Europe et à travers l'Europe. C'est une histoire qu'on n'a pas jamais, souvent, toujours le courage de raconter comme ça, parce que c'est dangereux. Et les goyim seraient ahuris de la lire, alors ils ne la lisent pas, mais les juifs seraient apeurés de la lire, alors ils ne la lisent pas. Mais c'est la réalité. Il n'y a pas que des juifs sortis des ghettos qui ont bouleversé l'épistémologie contemporaine. Les savants des goyim, ça existe. Ne croyez pas que je schématise intentionnellement, mais lorsqu'on lit cette histoire attentivement, je vous donne un tout petit exemple. Si vous essayez de lire l'impact que ce qu'on a appelé l'école de Vienne, les juifs sortis du ghetto de Vienne, ont eu sur l'histoire de la civilisation contemporaine, il y a de quoi d'être affolé. Donc, ça veut dire que ça se fait quand même, mais dans la défigure. Et pas du tout escalité, pas du tout au titre de l'identité d'Israël, etc. Mais ça se fait quand même. Et donc, je reviens sur cette analyse très, très rapidement. La première raison, c'est que Israël, comme nation de l'ensemble des descendants des patriarches et de ceux qui se sont adjoints à eux à la sortie d'Égypte, voilà, il y a deux volets du même chapitre, deux volets du même problème, n'est pas encore capable d'être ce que le projet de la Torah annonce pour lui, comme il le définit. Il y a une deuxième raison corollaire qui elle vient de l'extérieur, c'est le refus des goïms d'envisager ce plan de la Providence pour l'humanité entière à travers Israël et pour Israël pour l'humanité entière. Et on retrouve souvent dans beaucoup de sujets ces deux motivations, une dimension d'explication, une cause intérieure, une cause extérieure. Et donc tout cela est différé pour la fin des temps. Mais les prophètes n'oublient pas de nous dire les deux choses à la fois, jusqu'au bout. Donc la tribu de Lévi est mise à part. Alors, nous allons lire un des versets où cela nous est non seulement rappelé, mais précisé. Et je prends donc ce verset 19. Suivez rapidement avec moi. Il me semble que cette année déjà je l'avais cité, peut-être si c'est pas cette année, c'était. Je sais même plus si c'est pas un autre siècle. Mais enfin, dans tous les cas, c'était à une étude sur ce verset. Vedena est à Lévi'im, et je destinerai les Lévi'im, Netunim, donné, destiné, les Aaron ou Bana, à Aaron et à ses fils, c'est-à-dire aux Kohanim, Mitor béné Israël, du dedans des enfants d'Israël, la Avod et Avodat béné Israël, de El Moed, afin d'assurer le service des enfants d'Israël dans le tabernacle, et Raphaël béné Israël, et pour expier pour les enfants d'Israël, et Véloïe Bilné Israël Negev, de telle sorte qu'il n'y ait pas de dommage. Negev, c'est un peu plus que dommage, catastrophe. Okay. Comment on dit ? Fléau, très bien. Et Begeshet, de telle sorte qu'il n'y ait pas de fléau chez les enfants d'Israël, Begeshet Bene Israël et la Kodesh, lorsque les enfants d'Israël s'approcheraient de la sainteté. Quelle est l'idée ? Étant donné qu'Israël est voué à la sainteté, il peut être pris d'une impatience de sainteté, mais comme il n'est pas encore apte à s'approcher déjà trop proche de cette sainteté, cet approchement à la sainteté pourrait être néfaste. Est-ce que l'idée est claire ? Et l'Irot, Kebalar et la Kodé, je vais mettre, dit le verset. Ça veut dire que l'événement de la fin du Vaudor le corollaire étant la destination spécifique, spéciale par délégation d'Israël de la tribu Lévi pour le service de la sainteté, montre cela et corollaire du fait que c'est le propos de tous les enfants d'Israël, mais dans l'état où ils sont, s'ils anticipaient à un niveau de sainteté, de spiritualité dont ils ne sont pas encore réellement capables dans la réalité, bien que en projet de vérité, oui, cela pourrait être catastrophique. Je rappelle un peu les super. Donc il faut un médiateur qui reçoive la délégation de sainteté ou de projet de sainteté d'Israël lui-même. Un médiateur qui aurait déjà fait ses preuves, si je veux dire. On veut votre médiateur dans ses connotations théologiques, mais une médiation qui est acquise. Et l'image que je donne habituellement, c'est que si on fait passer un courant trop fort dans une ampoule, elle éclate. Par conséquent, il y a des courants dangereux, je ne sais pas comment dire ça. Ça ne veut pas dire que le courant n'est pas bénéfique, mais ça dépend de la qualité de l'ampoule. Et je vais prendre une autre image, mais je crois que cela est suffisamment clair. Et donc il apparaît là que les Lévites ont reçu une délégation de sainteté de la part de l'enfant d'Israël. La question qui apparaît du pshat de ce verset que j'ai déjà interprété en traduisant, c'est qu'on pourrait penser que ce fait de mise à part des Lévites par rapport au Bnei Israël disqualifie les Bnei Israël. Il y a là un thème à la fois historique et sociologique qui est très important parce que d'autre part il est très éclairant pour les mécanismes de conduite de la société juive en général et en particulier de la société israélienne. Vous allez retrouver un certain nombre de problèmes dans ce verset sur lequel ce verset ne peut pas ne pas jeter une grande clarté. Lorsqu'il y a des, si on trouve un vocabulaire un peu vague à ce propos, mais c'est le vocabulaire qu'on emploie en général en français, lorsqu'il y a des élus et ils sont élus par le peuple. Et le danger, le piège, c'est qu'on considère que puisque le peuple a élu les élus, il n'y a plus d'élus que les élus et le peuple est disqualifié. Mais c'est prendre un schéma d'une démocratie en pente d'échec. On élit des députés. Et donc les députés sont censés être les représentants de ceux qui les ont élus. Mais ensuite, on met entre parenthèses les électeurs, et puis les députés s'érigent en un peuple, super peuple, je ne sais pas comment dire, sans aucune, comment dire en français, sans aucune considération pour. J'ai pas dit que ça se passe chez nous comme ça, mais ça risquerait. Et je crois que les sociétés qui ont eu un projet démocratique ont inventé tous les procédés possibles et imaginables correctifs à cela, en particulier le référendum. Oui, le référendum. Le jour, enfin je continue à exploiter cette image, mais c'est une image. Okay. Le jour où on apprendra qu'en Israël on va décider qu'il y aurait un référendum, on commencera à parler de démocratie. Vous avez compris. Je reviens au verset. Le piège est donc serait de penser qu'une fois la tribu de Lévi mise à part des tribus d'Israël, ça disqualifie les tribus d'Israël. Okay. Bon, alors nous allons lire Rachid très rapidement qui va nous montrer que c'est tout le contraire. Là, nous sommes bien au cœur de notre problème, qui est le problème de la relation entre la tribu de Lévi dans son aparté, comment dire, dans sa mise à part, et d'autre part les tribus d'Israël, et réciproquement, les tribus d'Israël dans leur relation à la tribu de Lévi. Alors, je vais dire Rachid, si vous êtes avec moi. Cinq fois, l'expression « les enfants d'Israël » est dite dans ce verset, dans ce texte. « Léodia Hibatam », c'est pour nous faire connaître la Hibba qu'il représente vis-à-vis de Dieu. Hibba, ça veut dire « affection », l'amour qu'il a pour eux. Mais c'est Hibba, c'est pas Ahava. Hibba, c'est un peu plus tendre encore que Ahava. On pourrait dire la tendresse, c'est Hibba. Puisque la mention qui est faite d'eux est multipliée, Benikra Echad, dans un seul verset, Kenyan Hechum Shetora, selon le nombre des cinq livres de la Torah. Echad Laïti Bereshit Rabba, et cela, dit Rashi, ça j'ai vu dans le Bereshit Rabba. C'est pas l'objet de l'étude de Rashi dans le détail pour lui-même, il y a toute une bibliothèque là-dessus. Je vais simplement dire un peu l'essentiel qui concerne notre sujet que je rappelle, c'est-à-dire la nature du lien entre la tribu de Lévi après la mise à part du dedans des enfants d'Israël et d'autre part les enfants d'Israël par rapport à la tribu de Lévi. D'abord, la fin du Rashi, je crois que c'est important de signaler, Rashi n'a pas l'habitude d'ajouter cette note, et ça, je l'ai vu dans le Bereshit Rabba. Parce qu'il cite sans arrêt le Midrash, le Talmud, la Haggadah, tous les Midrashim, et il ne dit pas ça, j'ai vu là, ça, j'ai vu là. Je schématise un peu l'érudition des sources de Rashi, mais je pense que c'est clair. Alors, il y a une réponse très simple. C'est que Rashi a tenu à nous faire une analogie entre cinq fois l'expression « les enfants d'Israël » dans le même verset. Et c'est quand même exceptionnel que dans un seul verset, il y ait cinq fois l'expression « les enfants d'Israël ». Et d'autre part, puisqu'il y a cinq c'est quoi? Les cinq livres de la Torah. Il a pu se dire, les étudiants de Rashi vont croire que c'est infantile comme... comparaison, okay. Vous rappelez dans la Gadat Pesach, Hamisha Miyodea, Hamisha Niyodea, Hamisha Hamshe Torah, mais c'est des enfants. Alors il dit non, faites attention, c'est sérieux, ça c'est dans le Midrash Rabba. J'ai compris le prévu. Alors, en réalité, Rashi veut vous faire comprendre que le véritable sens du verset, c'est le contraire de ce qu'on aurait pu croire, comme j'ai cité précédemment. C'est loin de croire que le fait que la tribu de Lévi a été mise à part, les élus, les parfaits, ça disqualifie le peuple qui leur a donné cette délégation de projet de sainteté. Au contraire, à propos du verset qui dit cela, la Torah tient à dire que le prix que Dieu a vis-à-vis de son peuple, je me suis mal exprimé, vous comprenez, bah, ça concerne les enfants d'Israël et pas les Lévi. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le peuple d'Israël, Lévi, Choum, Ploum, c'est bien compris. Et imaginez un peuple d'Israël où il n'y aurait que des Lévi. Ce serait, je ne sais pas comment dire ça en français, à éviter. Sans Lévi. Bon, je vais vous donner des analogies, mais vous avez compris le problème. Et vous comprenez, suite à quelle cassure dans la société juive et dans la société israélienne en particulier, ça pourrait se passer. Les mises à part de la mise à part qui... J'ai compris le problème. Et je reviens donc au sujet. Il y a plus dans Rashi quelque chose de très important. C'est le fait que, si on a bien compris son parallèle entre les cinq expressions Askarot de Bnei Israël et les cinq livres de la Torah, ça veut dire que chacune des expressions du contexte de ce verset nous donne le sujet de chacun des livres de la Torah. C'est clair? Et je vais vous lire très rapidement en relisant le verset. Et je destinerai les Lévim, Netunim et Aaron et Banav, destinés, donnés à Aaron et à ses fils, le Kohanim, Mitor Ben Israël, du dedans des enfants d'Israël, ça, c'est le Sefer Bereshit. Or, quel est le sujet du Sefer Bereshit? Il n'est pas autre chose de nous raconter comment les enfants d'Israël sortent du dedans de l'humanité. Et vous reportez le même principe au sujet général du livre de Bereshit, et vous comprenez par vous-même l'importance de l'éducation de Rashi, déjà à ce niveau-là. Vous voyez que les choses viennent de loin, c'est risque de dévoiement. C'est-à-dire, si l'humanité tout entière savait que la mise à part d'Israël les concerne, il y aurait peut-être moins d'antisémitisme. Et si les Juifs savaient que la mise à part concerne l'humanité entière, il y aurait peut-être moins de malentendus avec les antisémites. Et ben, c'était pas seulement avec eux. Vous avez compris l'importance du sujet, je pense. Il faut comprendre le mot mythos. C'est du dedans des enfants d'Israël qu'apparaissent les Lévites. De la même manière que c'est du dedans de l'humanité qu'apparaît Israël. Mais s'il n'y a pas le ce dont, du dedans duquel, il n'y aurait pas. C'est clair? Et on parle de choses invisibles, mais je pense que vous avez bien compris. La deuxième indication a une aussi grande importance pour elle-même. Quel est le sujet du livre de Shmout? C'est Ohel Moed, la Avoda dans l'Ohel Moed. C'est-à-dire, si on se pose la question, le livre de Shmout, c'est le livre de l'Exode qui raconte la sortie d'Égypte et vers quoi ça mène. Si on se pose la question, vers quoi doit mener la sortie d'Égypte, la réponse est très claire, elle doit mener au Beth Amikdash. D'abord, je retrouve Maïmonide, 11e chapitre, et à la Hazaka, vous avez remarqué. Sans faire exprès. D'abord, il y a la sortie de l'exil, et ensuite, ça c'est Melech HaMashiach, d'après Maïmonide, hein, et ensuite, Binyan Beit HaMikdash. Ça c'est très beau. Et après, il y a le reste. Bon, je reviens aux enjeux de la. C'est très important, ça veut dire que la sortie d'Égypte a pour objectif, eh bien, non pas une religion juive qui serait cosmopolite, mais le culte du temple de Jérusalem, avec comme. étape d'apprentissage, si j'ose dire, le tabernacle du désert. C'est bien clair. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Vous savez, chaque fois qu'on reçoit des groupes de France, on nous les envoie, puis on parle français. Et alors il y a toujours un, comment je vais appeler ça, un étourécarta de service qui nous arrive dans je ne sais pas quel village de Trifouillet ou Cachère. Et alors j'ai entendu une chose que je vais vous dire, comme je l'ai entendu. Vous connaissez dans la période de ça, quelqu'un qui n'arrive pas à comprendre que ce que j'ai en train de dire là, tout simplement, on parlait sur un autre texte d'ailleurs, que la sortie d'Égypte avait pour objectif de rentrer en Eretz Israël construire le Beth Amikdash. Pour des raisons secondes que le livre de Shemot raconte, il est arrivé ce qui est arrivé, il a fallu faire un petit détour au Sinaï pour recevoir la Torah. Ça a mal tourné, on est resté là-bas, enfin ils sont restés 40 ans, et vous savez, toute l'histoire de Tisha B'Av, etc. Bon, pour vous apprendre en détail. Alors ce juif, il me dit avoir entendu d'un grand, que je ne citerai pas, et dans la veille de Pessah, vous connaissez le Daïeli. Alors il y avait la fin. Il matan manu et tatora, velo, ichnisanu le Israël Daïeli. Alors, patiemment, je lui ai expliqué que précisément ceux qui ont reçu la Torah, mais n'ont pas voulu rentrer dans les Israël, ont été enterrés dans le désert qui chavait au Sénat. Donc, le rabbin, il a dit qu'il s'est arrêté là. Et je ne sais pas si j'en ai raconté l'histoire juive dans cette dimension-là. C'est une histoire de fou. Je pense que c'est clair. D'ailleurs, ils appellent la France une terre d'asile, ça leur est arrivé. On revient à la France, d'ailleurs. Bien. Alors, le livre de chez moi. C'est la pauvre jeunesse, la terre d'asile. Et le livre de Vaïkra, c'est la troisième expression, « Ulchaper al-Bene Israël ». Et pour expier les fautes éventuelles du peuple d'Israël. Ça, c'est Vaïkra tout entier, il n'y a que ça. C'est clair, les commandements. Et ensuite, vous voyez Bimé Israël Negev, il n'y aura pas chez les enfants d'Israël de fléau. Vous lisez le livre de Bémiba, c'est toute l'histoire de ces fléaux. Toute l'histoire de ces fléaux. Les mises à l'épreuve et les conséquences catastrophiques de ces mises à l'épreuve. C'est vrai que Negev, Bémiba. Bekeshet Bene Israël et la Kodesh, ça correspond évidemment au livre de Dvarim lorsque les enfants d'Israël s'approchent du Kodesh, c'est-à-dire Eretz Israël. Et donc, quel est le plan qui apparaît dans ce verset? Alors, de ce plan général, je vais reprendre la dimension qui concerne notre sujet. Vous voyez, on a appris, et c'est très important, que c'est maintenant les Lévites sur qui repose le sort de l'approche de la sainteté et du projet de sainteté. Mais, ça n'a de sens que si c'est au nom des enfants d'Israël. Parce que ce projet-là, c'est le projet des enfants d'Israël. Bon, je vous laisse le soin par vous-même de comprendre toutes les implications qu'il y a là. Le danger serait de penser, après cette mise à part des élus, à l'histoire d'Israël comme l'histoire, le mot que j'emploie est à son sens purement étymologique, d'une église, alors qu'en réalité, il s'agit de l'histoire d'une nation. Et tous les malentendus de vocabulaire entre les différentes tendances se posant la question qui est juif, comment se définir, viennent peut-être de ce que, dans les derniers siècles en tout cas de l'exil, on a opéré cette confusion-là. On ne s'est plus rendu compte qu'on parlait d'une nation et pas d'une église. Enfin, une église, je ne peux pas dire synagogue parce que c'est pas une autre, mais dans le sens de ecclésia, un peu dans le sens. La preuve, et on arrive à notre sujet, c'est que le Beth Amikdash a été inauguré, pas par la tribu de Lévi, mais par les chefs des 12 tribus d'Israël. C'est-à-dire, vous avez là tout le contenu du récit de l'inauguration du Mishkan par les Nézihim, c'est-à-dire par les princes des tribus. Et nous allons voir maintenant, au début de Baal Otecha, le contrepoint de cela. Jusque-là, c'est suffisamment fait. Alors on commence. Et au début de Baal Otecha, vous verrez donc vous-même ce qui se passe avant. Les 12 tribus, c'est un très long texte qu'on répète d'ailleurs à Hanouka. Et voilà comment se maintenant notre paracha après après ce qu'on appelle Parashat Nesi, c'est-à-dire la paracha qui traite de l'offrande de l'inauguration des princes des tribus dans, à l'inauguration du Mishkan. Et d'abord, Hachem et Moshe les mots, d'abord, El Aaron, Vehamarta Ela, parle à Aaron, et tu lui diras, Be'alotecha et Anerot, et lorsque tu feras monter, Be'alotecha et Anerot, il n'y a pas beaucoup à expliquer là pour bien comprendre. On dit, Le'alot Ner, par exemple dans le verset, Le'alot Ner Tamid, faire monter la flamme de la lampe. Mais c'est tellement évident que c'est ça qu'on a besoin d'un commentaire pour nous dire pourquoi c'est comme ça que c'est. Il n'y a pas Be'adlikr, lorsque tu allumeras. Il y a lorsque tu feras monter la flamme, mais éternellement les lumières, et nous, Pene Amenorah, en direction de la face de la Menorah, et Pene Amenorah, c'est, vous voyez la Menorah à cette branche, vous voyez une branche centre, non pas une branche, comme le tronc, et ensuite six branches qui vont trois d'un côté, trois de l'autre. Et cela veut dire que les lumières devaient être inclinées vers la branche du milieu. C'est-à-dire que la branche du milieu est droite, il y a trois lumières de droite qui se tournent à gauche, et trois lumières de gauche qui se tournent à droite. Et nous, à peine à Menorah, les Rouchiva d'Anerot éclaireront, brilleront les sept lumières. Et la question, vous l'entendez tout de suite, le verset aurait dû dire les six lumières. Okay. C'est clair? Vous comprenez bien le problème. Qui c'est Elmoul Pene Amenorah, le verset aurait dû dire Yairou Shechet Amenorah. Mais voilà que le verset dit Elmoul Pene Amenorah et Yairou Shiva Amenorah. C'est un problème insolu, apparemment. Je disais un des commentaires à ce sujet. D'abord, l'allure générale de l'indication, c'est que ça, c'est la consigne donnée à Aaron, qui est le délégué des délégués des délégués de la tribu de Lévi, qui est elle-même déléguée de tout Israël. Le geste général, si j'arrive à le formuler, c'est qu'il y a une intériorisation qui doit viser à l'unité. Que les six se dirigent vers la septième, et finalement, le geste, c'est le geste du visée d'unité. Parce que, c'est bien clair, que ça ne peut pas être chaque lumière séparée. Ça, c'est les lumières droites. Et c'est pour éviter qu'évidemment les lumières divergent. C'est clair l'idée, je pense. Je sais pas, une fois j'avais montré cela et je ne pourrais pas vous dire dans quel livre j'ai lu ça. C'était au temps du nazisme, mais enfin, c'est dans la bibliographie. La différence entre le Maguet David, ce n'est pas la peine de le mettre au tableau, et la croix gammée. C'est exactement le sens inverse. Le Maguet David, c'est un effort d'unifier tout ce qui est multiple dans tous les sens jusqu'au point central unifiant. Intériorisation unifiante. Oui, une croix gammée, et ça commence avec la croix Stam, ça s'en va dans l'infini du néant. Du point central, tout le contraire. Et alors, l'auteur, je ne peux pas vous dire qui c'est pas. Non, François Saint-Saëns, c'est l'étoile de la rédemption. C'est une partie de ce schéma-là, je pense. L'auteur indiqué, c'est pas par hasard, c'est pas pour rien, que finalement ces deux symboles se sont heurtés au temps dans l'histoire à travers les sociétés qui se les étaient choisies. Bon, je vais refaire ma héraldique là, mais il est bien clair que nous avons quelque chose de très analogue ici, avec un menorah qui doit intérioriser. Mais c'était un des commentaires qui se base sur le Zohar. C'est que toujours cette numération 6 et 7 renvoie à la première numération de 6 et 7 du commencement, qui sont les 6 jours du commencement, et le 7e jour, c'est le jour du Shabbat. Or, c'est la Torah qui est comparée à la lumière, qui ner mitzvah de Torah or. Et vous connaissez ce principe auquel les moralistes, si vous voulez, dont les moralistes se sont servis un peu trop abusivement, par des formules trop générales. Et lorsque les étudiants, je ne sais pas comment dire, ou les universitaires, enfin non, les intellectuels plus exactement, cherchent vraiment à comprendre qu'est-ce qu'ils veulent dire par là, j'ai pas encore cité, ils sont parfois désorientés du caractère un peu naïf de ces formules originales. Par exemple, cette formule que la Torah contient toutes les sciences. Et il faut savoir à quel niveau c'est vrai. Mais si on dit une formule comme ça, toute bête, et puis en illustrant ça par des petites gamineries, je ne sais pas comment dire, des enfantillages, alors ça désoriente, pour ne pas dire autrement. Donc ce sont des formules à utiliser avec précaution. Je pense que vous comprenez les catastrophes pédagogiques qui peuvent être impliquées. Il n'y a pas que cet exemple, il y a mille exemples où on véhicule des formules hypertrophiées, je pourrais dire, ou hyperboliques. Et puis, chaque fois que la question se pose, qu'est-ce qu'il y a dans le contenu, on est désorienté de ne pas avoir quelque chose de... C'est clair, c'est bien. Et alors, ce commentaire que je cite explique cette formule de la manière suivante. C'est que, qu'est-ce que c'est que les sciences en général ? C'est la recherche de la connaissance de la réalité du monde créé dans les six jours. Vous comprenez ce raccourci, c'est un raccourci, mais je pense qu'il est clair. Qu'est-ce que le savant dans son projet cherche à atteindre ? C'est la connaissance vraie de ce qui concerne la réalité des six jours. Ceci aussi est plein de thèmes importants. Dans la perspective du monothéisme, ça voudrait dire qu'il y a une certaine approche du projet scientifique qui doit être considéré comme saint, comme un projet de sainteté, et parce que, quel est le projet ? C'est de découvrir la volonté du Créateur, comment le Créateur a voulu que les phénomènes fonctionnent. Si nous sommes dans la cohérence d'une doctrine qui commence par dire « le monde où nous vivons est créé par celui qui a révélé la loi morale », et donc le projet scientifique devrait procéder de la conscience morale elle-même. Et je voudrais dire à la limite que seul ce qui serait capable d'une moralité absolue aurait la permission de faire des signes. En tout cas au Moyen-Âge, lorsque les savants juifs, les rabbins je veux dire, faisaient des sciences en laboratoire, ils commençaient par prendre ce qu'on appelle le bain rituel, la mikvah. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient conscience qu'ils allaient entrer dans un projet qui consiste à tenter d'explorer, rationaliser la volonté du Créateur. Pour eux c'était une conduite au-delà de la sainteté habituelle, et que nous sommes loin de ce dualisme. Aujourd'hui, comme vous savez, dans la culture générale, il y a un problème, science et conscience, et est-ce que, finalement, on est entré dans une escroquerie dans la science moderne, on ne demande aucune conscience comme préalable à la science, d'où peut-être les catastrophes. Mais autant encore du Moyen-Âge, ces consignes-là étaient, autant que ce peut, absolument préservées. Et donc ce problème de la dualité entre la science et la conscience, en chargeant conscience de toutes les valeurs spirituelles, c'est un problème moderne. Parce que les anciens étaient assez vigilants de savoir être vigilants. Et alors donc, cette source indique que les chochmot chrissoniot, les sagesses, je veux dire les sciences, dans le vocabulaire contemporain extérieur à la Torah, concernent les six jours. Je crois que la définition est simple. Quelle que soit la science, finalement, on est ramené à la même définition. On essaye d'explorer la manière dont le Créateur a décidé que les phénomènes fonctionnent. Et puis, la Torah, elle, est appelée la Chorma du septième jour. Tout le monde est d'accord dans la Gemara que ce soit le 6 ou le 7 Sivan que la Torah a été donnée au Sinaï, que c'était un Shabbat. Vous connaissez cette machloket, finalement, la décision a été que le 6 Sivan. Mais et que c'était un Shabbat. C'est-à-dire la Torah et la Chokhma du septième jour, alors que les Chokhmot, en général, sont les Chokhmot des six jours. C'est-à-dire il y a c'est pas la peine de rentrer dans plus de détails. Et alors, ce que nous dit ce texte, c'est lorsque les sept éclairent ensemble qu'elles éclairent. Yahirou, Shiva, Tamer. Il faut qu'elles éclairent ensemble pour qu'elles éclairent. C'est-à-dire quand la lumière de la Torah éclaire les autres sciences, et que les autres sciences éclairent la lumière de la Torah, les sept éclairent. Sinon, les six, il y a sept. Donc ça va très loin comme indication, mais nous avons au moins le bénéfice de retrouver le chat du verset. Voilà pourquoi le verset a dit, « Yairou Shiva Tanero, et pas Shesha Tanero. » C'est bien. Bon. Alors, prenons maintenant Rachid. Pour revenir à notre sujet. Quête.
Si on lit les limites sur un rameau, certains considèrent que c'est un livre qui n'a pas à cause du livre.
C'est dans la gamme Ratcha.
C'est
dans la gamme Ratcha, là.
Alors on a 7 livres.
Oui. Oui, eh bien ça veut dire que au niveau des 7 livres de la Torah, il y en a 6 et 1, 7 et 7. Là aussi, c'est le même schéma. Je veux dire, voilà, je vais reprendre un peu la question au fond. Je crois qu'il faut toujours revenir. Au fond, c'est un peu ce qu'on a perdu dans ces 2000 ans de voyage à travers les civilisations dualistes. C'est-à-dire qu'ils ont séparé le projet spirituel du projet matériel ne sont pas les mêmes, mais qui les ont séparés dans une perspective incompatible. Il faut revenir au principe du monothéisme. C'est cet effort-là qu'il faut refaire pour redevenir hébreu. C'est-à-dire, vous avez une mentalité que je vais appeler intentionnellement par un terme négatif, pour bien situer les distances. Vous avez une mentalité puritaine pour qui, évidemment, a priori, les sciences, qui sont les sciences de la matière du monde, et la matière du monde, c'est même les fonctionnements, je ne sais pas comment dire, des idéalia, pas seulement des réalia. C'est satanique, c'est l'œuvre de Satan, c'est le diable, c'est clair. Je comprends bien comment, on comprend bien comment ça a pu arriver, à cause des conséquences. Le fait qu'une science irresponsable finit par mener à la bombe atomique, à l'hydrogène et à tout ce que c'est évident. Mais dans le projet spirituel, c'est une mentalité dualiste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas celui qui a donné la morale, la loi morale, qui a créé le monde. Ce n'est pas celui qui a créé le monde qui a donné la loi morale. On est en dehors du monothéisme hébreu. Et vous voyez à quel point nos propres milieux, même pas besoin d'aller jusqu'à puritain, religieux, ont été intoxiqués par cette mentalité dualiste. On comprend très bien ce barrage à cause du problème sensé-conscience. Mais de là à réputer le projet scientifique dans son étymologie de pureté comme diabolique, satanique, ça c'est pas hébreu, c'est d'Afka grec, c'est d'Afka chrétien, à la limite, tout ce que vous voulez, c'est en tout cas puritain. Bon, mais on peut aussi faire la psychanalyse là-dessus, de la chose. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ? Par conséquent, il est évident que lorsqu'on dit la Torah est kolelet kol ha-chokhmot, ou bien c'est une blague, hein, ou bien c'est une affirmation monothéiste. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit ? Alors si c'est une affirmation monothéiste, il est bien évident qu'on ne peut pas se borner à ce niveau purement pieux, entre guillemets, bien sûr, parce que la piété c'est de la sainteté, mais enfin pieux entre guillemets c'est des guillemets, qu'on a besoin des sciences pour la Torah. Si on n'avait pas l'astronomie, eh bien on ne pourrait pas connaître le calendrier. Donc l'astronomie c'est très bien, mais pour le calendrier. Vous voyez jusqu'où on va, je peux vous donner des tas d'exemples, hein, le rasoir électrique, le compteur automatique, hein. Mais vous savez ce qu'il a fallu comme un effort scientifique pour arriver là. Et le projet de la science qui nous a donné les compteurs électriques du Shabbat et le rasoir électrique des joueuses, etc. C'était pas du tout ce projet-là. Et ça se trouve dans le monde que le Dieu unique a créé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Alors, je crois qu'il faut un peu se réveiller de ce cauchemar dualiste et avoir le courage d'envisager les perspectives du monothéisme à l'aise. Mais vous pouvez vous imaginer à quel point les dualistes sont malheureux, parce qu'ils sont coupés en deux, même dans leur joie. Et alors que les monothéistes sont heureux, El Simcha et la Simcha Shel Torah, Dafka, parce qu'ils sont monothéistes. Et vous avez compris le travers des mots, je suppose. Cette découverte que c'est celui qui a donné la loi morale qui a créé le monde, et que par conséquent cette incompatibilité évidente n'est que provisoire, c'est le fondement de l'optimisme de la foi. Je crois que c'est très clair, d'ailleurs ça a été le privilège des chassidim de remettre en évidence qu'une foi triste, c'est pas une foi authentique. Alors d'où vient cette tristesse, sinon du dualisme? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, les choses sont contradictoires, tragiques. Le seul monde dans lequel on serait, ce serait celui que le seul Dieu n'aurait pas fait. Je ne sais pas si vous rendez compte de ça même. Et quand on est là, les gens qu'on a dedans, ça fait des anarchies.